France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, vieillir, qu'est-ce vivre ? À la différence de la vieillesse qui se rapporte à une période donnée de la vie, le vieillissement désigne une évolution du corps qui commence dès la naissance et ne s'interrompt qu'à la mort des individus. Autrement dit, ça peut durer longtemps. Ce qui est clair, en effet, c'est que nous ne sommes pas comme Tintin, qui lui est invariant d'album en album. Notre corps est même tout le contraire d'une constante physique. Les symptômes de sa transformation inéluctable sont bien connus. Les organes s'usent, les articulations se rouillent, la colonne vertébrale et les épaules se raidissent, les muscles fondent tandis que le ventre fait le contraire, les gestes ralentissent, le visage se ride, les yeux s'étrécissent, la peau se parchemine, et je pourrais prolonger ad nauseam cette austère liste qui sonne comme une bataille déjà perdue. Mais qu'est-ce que la biologie contemporaine comprend du vieillissement? Comment le définit-elle? Le considère-t-elle comme intrinsèque, c'est-à-dire déjà programmé dans l'organisme, ou bien comme dépendant de facteurs contingents, notamment liés à l'environnement ou au mode de vie? Et question qui, je crois, intéresse pas mal de monde, peut-on espérer un jour ralentir la dynamique du vieillissement? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Clémence Guillermin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en philosophie des sciences et vous venez de publier un livre dont le titre m'a fait très plaisir. Je l'ai accueilli comme une bonne nouvelle. Le titre, c'est « Le vieillissement n'est pas une maladie ». Ça vient donc de paraître aux éditions PUF. Alors, vous êtes toute jeune et la question que j'ai envie de vous poser d'emblée, c'est qu'est-ce qui vous a mené à cette étude de la biologie du vieillissement alors que vous n'êtes pas encore tout à fait concerné?
C'est une question à la fois intellectuelle et personnelle. Sur le plan personnel, moi, j'ai commencé à faire de la philosophie après mes études de sciences. Et lorsque je me suis tournée vers la philosophie, la personne qui allait devenir ma directrice de thèse, donc Marie Gaille, qui est aujourd'hui directrice du CNRS Sciences Humaines et Sociales, m'avait proposé soit de travailler sur les raisons qui justifiaient que certains couples fassent des interruptions médicales de grossesse, soit plutôt de travailler sur la fin de vie et le vieillissement. Et moi, j'étais jeune, je venais de me marier, j'avais envie d'avoir des enfants, donc j'avais pas envie d'aller rencontrer des couples enceintes ou avec un projet d'enfant qui devaient faire face à ce genre de choix. Donc j'ai préféré tout de suite m'orienter vers le vieillissement. Et d'un point de vue intellectuel, c'était aussi pour moi une piste féconde, puisqu'en fait, en s'intéressant au vieillissement, on s'intéresse au vivant en général, on s'intéresse à la manière dont les organismes vivants évoluent, se confrontent à leur milieu de vie. Et donc, en fait, on touche à énormément de sujets différents, énormément de questions, à la fois sur le plan physiologique, sur le plan existentiel et puis dans plusieurs autres dimensions. Donc c'était une manière pour moi d'aborder des grandes questions philosophiques par un petit angle.
Alors que Clémence Guillermin, moi j'avais compris que le vieillissement c'est une notion statistique, c'est-à-dire que ça mesure l'augmentation avec le temps de la probabilité qu'a un individu de mourir dans l'année qui suit. Et quand on regarde les courbes, on voit une chose assez étonnante pour les hommes en France notamment. Entre 23 ans et 39 ans, on ne vieillit pas. On prend de l'âge, évidemment, mais ça n'augmente pas la probabilité de mourir dans l'année qui vient. Est-ce que cette définition est pertinente ?
Alors, en effet, en biologie, il y a souvent une forme de confusion entre ce qu'on appelle le vieillissement et cette augmentation du risque de mortalité. C'est-à-dire qu'on réduit souvent le vieillissement à l'augmentation du risque de mortalité avec l'avancée en âge. Et en effet, si on réduit le vieillissement à ce paramètre-là, on observe un certain nombre de choses, comme par exemple le fait qu'à un certain âge, on pourrait considérer qu'on ne vieillit pas. Il y a des phénomènes un petit peu particuliers qu'on peut étudier. Par exemple, il y a une forme de plateau en fin de vie où les individus très âgés semblent ne plus vieillir puisque le risque de mortalité n'augmente plus. Et surtout, ça permet aussi de justifier le fait qu'il y a en grande majorité des espèces qui vieillissent, qui sont dites les espèces sénescentes, dont le risque de mortalité augmente avec l'avancée en âge, et à l'inverse des espèces qui sont dites non sénescentes, puisque, en effet, leur risque de mortalité n'augmente pas avec l'avancée en âge. C'est le cas des tortues de Blanding ou des pins Bristol Cone. Et dans ces cas-là, on peut dire qu'elles ne vieillissent pas si on se réduit à cette définition particulière. En revanche, si on définit le vieillissement d'une autre manière, ce sont quand même des espèces qui expérimentent le passage du temps, si vous voulez.
Il y a un cas encore plus limite qui n'appartient pas au monde du vivant, mais c'est les atomes radioactifs. qui sont condamnés à se désintégrer, mais ils le font avec une probabilité qui est indépendante de leur âge. Si on prend un atome de carbone 14, radioactif, ils le sont tous. Si on en prend un qui est apparu il y a 2 minutes, et si on en prend un autre qui est apparu il y a 1 milliard d'années, ils ont tous les deux exactement la même probabilité de mourir, entre guillemets, dans l'heure qui vient. Donc ils prennent de l'âge, sans que ça ne change leur constitution physique, et sans que ça modifie leur probabilité de mourir.
Alors moi, je ne les classerais pas nécessairement du côté du vivant.
Non, ils ne sont pas vivants,
voilà,
je le confirme.
Du coup, est-ce que quelque chose qui n'est pas vivant vieillit ? Ça, je ne suis pas complètement persuadée. Par contre, ce qui est étonnant, c'est de constater que parmi les espèces vivantes, vous avez des espèces dont le risque de mortalité semble constant, c'est-à-dire qu'ils peuvent mourir à un instant ou à un autre par accident, sans que ce risque de mourir augmente avec l'avancée en âge.
J'ai dit, Clémence Guillermin, dans mon introduction, que le vieillissement, c'est pas la même chose que la vieillesse.
Oui.
Mais il faut quand même parler de la vieillesse.
Oui.
Et vous racontez dans votre livre que Montaigne l'a situé, situait son commencement à 47 ans.
Oui.
Hippocrate, 56 ans. Aristote, 50. Saint-Augustin, 60.
Oui.
Est-ce qu'on connaît les critères qui les ont conduits à avancer ces chiffres ?
Alors, sur ces auteurs-là, je ne pourrais pas vous dire spécifiquement ce qui les a conduits à parler de ces âges en particulier. Je crois que Montaigne, 47 ans, c'était le moment où il rédigeait le passage sur le vieillissement. Mais bon, à prendre avec des pincettes, je ne suis pas sûre de ce que j'avance ici. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de constater que même en biologie, les biologistes ne sont pas d'accord sur la question de savoir quand commence le vieillissement. C'est-à-dire que si vous demandez à n'importe quel biologiste du vieillissement quand commence le vieillissement, vous aurez à peu près autant de réponses que de biologistes.
Il y en a qui considèrent... Mais vous dites qu'il commence à la naissance.
Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a des biologistes qui disent que c'est à la conception, d'autres qui disent que c'est à la naissance, d'autres qui disent que c'est à l'adolescence, à l'âge adulte, à la ménopause, etc. Vous avez toutes les réponses possibles et imaginables. Moi, je pense qu'on peut considérer que l'organisme est soumis au passage du temps dès la conception. Voilà, mais en tout cas, les biologistes ne sont pas d'accord pour définir le vieillissement.
Voilà. Alors, ce qui est net, en tout cas, quand on vous lit, c'est que le vieillissement a longtemps été un sujet pour les philosophes. Et ce n'est devenu qu'assez récemment, finalement, un sujet pour les biologistes. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ce franchissement de frontières disciplinaires ?
En fait, dans la tradition philosophique, il y a deux manières d'appréhender le vieillissement, soit comme une expérience, qui peut être individuelle et subjective, ou collective et sociale, qui a été effectivement très, très utilisée par les philosophes depuis l'Antiquité, depuis Platon, Aristote et dans les siècles qui ont suivi. Et l'autre approche, c'est d'appréhender le vieillissement comme un phénomène organique, corporel, incorporel, etc. Et là, la philosophie a dit des choses pendant plusieurs siècles, mais cette approche a plutôt été laissée de côté et a été très développée avec le développement de la biologie moderne. En fait, ce qu'on observe, c'est que très longtemps, les philosophes ne sont pas tant intéressés au vieillissement que ça. Le vieillissement et la mort n'étaient pas tellement des phénomènes étudiés. On les considérait comme naturels, ne méritant pas d'être examinés. Et puis, progressivement, je pense aussi avec les progrès de la médecine, avec le développement de la santé publique au 19e siècle, avec, le vieillissement général des populations, la mise en place en France d'une médecine des personnes âgées au milieu du 20e siècle. On a dû, je pense, de fait, s'intéresser à ce phénomène et ont émergé de plus en plus de questions. Pourquoi est-ce qu'il y a des espèces qui vieillissent ou d'autres qui ne vieillissent pas? Pourquoi est-ce qu'il y a des différences interindividuelles entre les personnes? Voilà, un certain nombre de questions qui ont justifié que d'autres disciplines se penchent sur le vieillissement et, de fait, avec la constitution de la biologie moderne, notamment la biologie.
Alors, vous citez souvent dans votre livre un médecin polonais, Ludwig Fleck, qui est né en 1896 et qui est mort en 1961. Il vous semble avoir compris comment ça se passe, c'est-à-dire comment les chercheurs finalement suivent des rails intellectuels, des systèmes de pensée qui leur permettent de communiquer d'un groupe à l'autre, mais qui en même temps charrient des espèces d'a priori dont ils ne sont pas toujours conscients.
Oui. Alors Ludwig Fleck, c'est un auteur qu'on étudie beaucoup en philosophie des sciences. Il a écrit donc Genèse et développement d'un fait scientifique en 1934, publié en allemand en 1934 et puis traduit ensuite dans plusieurs langues, dans lequel il explique comment un simple test sanguin, donc la réaction de Wassermann, a pu conduire au développement d'une discipline scientifique indépendante qui est la sérologie. Et il s'appuie sur cet exemple historique pour essayer d'expliquer plus généralement comment se constitue une discipline scientifique indépendante, en l'occurrence ici la sérologie. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il a, il a développé toute une terminologie pour expliquer justement la constitution d'une discipline scientifique indépendante, avec ses notions de collectif de pensée, avec un style de pensée associé qui correspond en fait au regard que le collectif de pensée va poser sur son objet d'étude, la notion de rail intellectuel, la notion de vieilles idées pré-scientifiques que je réutilise aussi dans mon livre. Et en fait, moi, j'ai choisi d'investir vraiment cette terminologie de Ludwig Fleck pour essayer d'appréhender la biologie du vieillissement, parce que c'est une discipline tellement complexe, tellement variée, tellement morcelée, qu'il me fallait en fait un angle d'attaque et que je pense que c'est assez clair dans ma première partie, les approches classiques ne me convenaient pas, c'est-à-dire que retracer l'histoire de la constitution de la discipline, ça ne m'apprenait pas grand-chose, examiner les grandes théories, ça ne m'apprenait pas grand-chose, distinguer la biologie du vieillissement de la médecine anti-âge, c'était finalement pas suffisant, et donc le fait de mobiliser ces notions de Ludwig Fleck et en particulier cette notion de style de pensée, moi ça me permettait vraiment d'avoir un angle pour appréhender cette discipline scientifique.
Alors, vous distinguez trois approches classiques de la biologie du vieillissement, celle que vous qualifiez d'historique, oui, celle que vous qualifiez de théorique et celle que vous qualifiez de disciplinaire. Est-ce que les gens qui sont dans ces trois branches se parlent? Et si oui, est-ce qu'ils sont d'accord entre eux?
Alors, c'est trois approches que j'ai choisi d'adopter pour essayer d'appréhender, de comprendre cette discipline scientifique. C'est évidemment pas les mêmes auteurs qui vont appréhender la biologie du vieillissement du point de vue historique ou du point de vue théorique ou du point de vue disciplinaire. Du point de vue historique, c'est plutôt des historiens qui s'intéressent à la constitution de la discipline, qui ont montré comment la biologie du vieillissement s'est construite par rapport notamment à la médecine anti-âge. Donc il y a des auteurs comme Binstock, par exemple, que j'évoque dans mon livre. Sur le plan théorique, j'ai plutôt lu de la littérature scientifique, donc c'est plutôt des auteurs en biologie du vieillissement qui vous expliquent quelles sont les grandes théories, les grandes classifications de théories, etc. Et après, tout ce qui est approche disciplinaire, donc distinguer la biologie du vieillissement de la médecine anti-âge, là c'est encore une autre catégorie d'auteurs, parfois plutôt des sociologues, sinon des historiens, encore une fois. Voilà, donc c'est des approches qui sont, à mon sens, distinctes.
Est-ce qu'on arrive à comprendre d'où vient que le vieillissement soit possible? Parce que si on est darwinien, il y a une sorte de paradoxe par le fait que le vieillissement n'apporte aucun avantage sélectif, en tout cas pas d'avantage reproductif. Et donc on a l'impression que la vieillesse est inutile du point de vue de la sélection naturelle.
Tout à fait. Alors, en biologie, en général, depuis Ernst Mayr, il est courant de distinguer donc biologie évolutionniste, d'une part, qui cherche à répondre justement à la question « pourquoi ?» et dite la biologie des causes ultimes, et la biologie, d'autre part, fonctionnaliste, qui cherche à répondre à la question « comment ?», donc par quel mécanisme, etc. Biologie dite des causes prochaines, causes proximales ou prochaines. Et donc, de même, en biologie du vieillissement, on peut distinguer la biologie évolutionniste qui cherche justement à répondre à la question que vous soulevez, pourquoi est-ce qu'on vieillit? Pourquoi est-ce que ce phénomène a été sélectionné par la sélection naturelle? Et à l'inverse, la biologie fonctionnaliste, comment est-ce qu'on vieillit? Par quel mécanisme? Quels sont les gènes? Quelles sont les voies de signalisation, etc. Et alors, sur le versant évolutionniste, donc, pourquoi est-ce qu'on vieillit? Pourquoi est-ce que ce phénomène a été sélectionné? Ce qu'on observe, c'est que trois grandes théories, trois grands modèles ont été élaborés depuis à peu près le milieu du XXe siècle. Le premier grand modèle, c'est la théorie de l'accumulation de mutations de Peter Medawar, qui explique qu'en fait le vieillissement est causé par une accumulation de mutations aux effets délétères dont les effets ne se manifestent qu'en fin de vie, donc après la période de reproduction. Et donc finalement c'est pour ça que ces mutations ne sont pas éliminées par la sélection naturelle, il y a juste une accumulation de mutations aux effets délétères qui sont transmis parce que les individus se reproduisent avant d'avoir pu les éliminer. Le deuxième grand modèle, la deuxième grande théorie, c'est la théorie de la pléiotropie antagoniste de George Williams, qui est plus focalisé sur le niveau génétique ou moléculaire, qui repose sur l'idée que le vieillissement serait associé à la présence de gènes à effet pléiotrope, c'est-à-dire des gènes qui ont des effets bénéfiques en début de vie, mais aussi des effets délétères en fin de vie. Donc, ils seraient sélectionnés par la sélection naturelle parce qu'ils auraient des effets bénéfiques, et ils seraient en même temps responsables de certains effets délétères, notamment qui apparaîtraient notamment...
Ce sont des atouts qui deviennent des handicaps.
Voilà. Par exemple, il me semble que c'est George Williams lui-même qui cite l'exemple d'un gène qui favoriserait la calcification des os, qui serait un atout, évidemment, pendant la croissance, pendant la petite enfance, etc. Par contre, en fin de vie, ce serait peut-être un gène qui serait responsable du phénomène d'arthrose, etc. Donc, on comprend bien comment des gènes peuvent avoir ce double effet. Et là, le troisième grand modèle, la troisième grande théorie élaborée au XXe siècle, c'est la théorie de Thomas Kirkwood, dite du soma jetable ou soma disposable, selon la manière dont on choisit de le traduire, qui est plus, ça vous intéressera puisque vous êtes physicien, c'est plus une vision énergétique de l'organisme. C'est l'idée qu'on naîtrait tous les êtres vivants naîtraient avec une quantité limitée d'énergie qu'ils pourraient choisir d'allouer soit pour conserver leur organisme, leur soma, soit pour se reproduire, soit pour vivre le plus longtemps possible et selon les choix de vie qu'ils feraient.
On choisit d'ajouter de la vie aux années ou des années à la vie.
Voilà, tout à fait, tout à fait. Et donc ces trois grands modèles ont persisté pendant tout le XXe siècle, ont coexisté parce qu'ils ont tous des avantages et des inconvénients jusque dans les années à peu près 80. Dans les années 80, on revient à une biologie plutôt fonctionnaliste, donc plutôt une biologie des mécanismes. Mais ce qu'on observe, c'est que ces trois théories continuent d'être investies tout de même en biologie aujourd'hui. Et ça reste trois grandes explications pour répondre à la question que vous avez soulevée. Donc pourquoi est-ce qu'on continue de vieillir ?
Mais Clémence Guillermin, je vais poser une question naïve, mais est-ce qu'on peut mourir de vieillesse ? Ou est-ce qu'on meurt forcément d'autre chose, d'une maladie, d'un accident, mais c'est pas la vieillesse en elle-même qui est la cause de la mort?
C'est une question difficile et je pense que les biologistes ne sont eux-mêmes pas forcément d'accord. Et là, on rejoint donc le titre de mon ouvrage, donc le vieillissement n'est pas une maladie, puisque vous avez des biologistes qui considèrent que le vieillissement est peut-être complètement assimilé à une pathologie ou à une accumulation de pathologies, qui définissent le vieillissement comme une accumulation de pathologies liées à l'âge. Par exemple, David Gems, un biologiste britannique, qui dit qu'il n'y a pas de dichotomie stricte entre vieillissement et maladie. Dans ces cas-là, on meurt pas de vieillesse, on meurt toujours d'une pathologie ou d'une autre. Et puis, vous avez quand même de nombreux biologistes qui vous disent qu'il y a quand même une distinction à faire entre vieillissement et maladie. Et souvent, c'est des biologistes qui parlent d'une des notions que j'expose dans mon livre, qui est la notion de vieillissement intrinsèque, qui est très liée à la notion de mort naturelle. Donc, l'idée qu'il y aurait quand même un processus de vieillissement qui serait lié à un vieillissement normal, à mettre avec des guillemets évidemment, et qu'on pourrait mourir simplement parce que le corps aurait vieilli, et même en l'absence de pathologie.
Mais là, je vais sortir de l'espèce humaine. Est-ce qu'il y a des espèces animales dont les individus sont condamnés à mourir en bonne forme? C'est-à-dire qu'ils meurent sans que les manifestations du vieillissement se soient montrées de façon très notable?
C'est une bonne question parce qu'en fait, pendant longtemps, on disait que le vieillissement n'existait pas dans la nature, justement parce qu'on avait l'impression que les espèces dans la nature ne vieillissaient pas. Elles étaient de toute façon mangées ou éliminées d'une manière ou d'une autre. Voilà, après, je pense que vous avez en tête l'exemple du saumon qui a un cycle de vie très particulier où il est en pleine forme, il se reproduit et puis il meurt simultanément. Il meurt juste après la période de reproduction. Je crois que la menthe religieuse, si je dis pas de bêtises aussi, qui se fait le mâle se fait manger, je crois, juste après l'accouplement. Donc il y a des cycles de vie qui peuvent être particuliers, parfois des qui peuvent se régénérer également.
Alors aujourd'hui, Clémence Guillermin, on parle beaucoup de la médecine dite anti-âge. Est-ce que cette médecine s'appuie sur les découvertes que font les biologistes du vieillissement, ou est-ce que c'est un pur marketing? Qu'on peut d'ailleurs déceler au fait que anti-âge, ça veut rien dire, on peut pas changer l'âge de quelqu'un.
Oui, alors peut-être qu'on pourrait plutôt dire anti-vieillissement pour voilà.
Ce serait déjà plus honnête.
Ouais, ce serait déjà plus honnête. Les biologistes du vieillissement ont tendance à dire, il faudrait dire même médecine de la longévité, parce qu'en fait, c'est pas tant le vieillissement qui les intéresse, c'est presque plus la durée de vie. Donc la médecine anti-âge, j'y consacre tout un chapitre de mon livre parce que j'essaye de distinguer la biologie du vieillissement d'autres domaines connexes. Et le plus emblématique, le plus caricatural, c'est effectivement la médecine anti-âge qui se développe aux États-Unis à partir de la fin des années 80. Donc en 90, un biologiste qui s'appelle Daniel Roodman publie un article Princeps dans lequel il montre qu'en administrant de l'hormone de croissance à 12 hommes âgés, il parviendrait, et je mets tout de suite du conditionnel, à ralentir, voire à inverser le vieillissement de ces 12 hommes. C'est un article qui a été immédiatement critiqué, controversé, et puis évidemment il est scientifiquement questionnable, puisque c'est uniquement 12 hommes, c'est difficile de prouver quoi que ce soit à partir de 12 personnes. Mais en tout cas, c'est l'article qui a ouvert la voie à l'idée qu'on pouvait peut-être, avec les techniques modernes, lutter contre le vieillissement, le ralentir, le prévenir, etc. Et donc à partir des années 90, vous avez ce courant de la médecine anti-âge qui s'est développé massivement aux États-Unis et puis plus de façon plus mesurée en France. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a tout un article d'un monsieur qui s'appelle Binstock qui a été publié en 2003 sur le sujet. Vous avez une espèce de guerre entre biologie du vieillissement académique et médecine anti-âge. Mais c'est une guerre qui est un petit peu ambiguë parce que la médecine anti-âge et la biologie du vieillissement ont toutes les deux intérêt à ce que l'une et l'autre se développent. Puisque la biologie du vieillissement est bien contente que la médecine anti-âge, qui possède de nombreux financements privés, etc., fasse de la recherche sur le vieillissement, crée des gros instituts comme Calico, qui est financé par Google, le Buck Institute, etc., que le grand public s'intéresse, que les entreprises de biologie, de biotechnologie soient développées et que le grand public s'intéresse au vieillissement. Et à l'inverse, la médecine anti-âge a tout intérêt à ce que la biologie du vieillissement soit financée, puisqu'elle s'appuie très fréquemment, quasiment systématiquement, sur des articles publiés en biologie du vieillissement académique pour justifier, pour asseoir sa légitimité. Et donc il y a une espèce de guerre, mais un petit peu ambiguë en fait, entre ces deux domaines.
Clémence Guillermin, dans votre livre, vous évoquez un certain nombre de notions, 6 au total, qui permettent de dire d'une façon plus ou moins correcte ce qu'est le vieillissement. Ces notions sont l'usure, l'erreur, les erreurs, la maladaptation, la fragilité, le vieillissement intrinsèque, et ce que vous appelez le trade-off en anglais, une sorte de compromis, on y reviendra. Mais vous remarquez aussitôt que ce sont des concepts flous. Et donc j'ai une question qui est-ce que des métaphores comme celle-là ont besoin d'être floues pour fonctionner? Est-ce que c'est leur flou qui permet de déterminer des axes de recherche?
En tout cas, moi, c'est ce que je pense, oui. Alors, en fait, le point de départ, c'était que, après avoir examiné l'histoire de la constitution de la biologie du vieillissement, après avoir examiné les grandes théories, les principales hypothèses, les principaux postulats, après avoir distingué la biologie du vieillissement de la médecine anti-âge, j'arrivais toujours pas à identifier ce style de pensée, ce regard que la biologie du vieillissement pose sur son objet d'étude. Et donc, mon idée, c'était d'aller explorer les grands concepts, c'est comme ça que je le formulais, les grands concepts de la biologie du vieillissement. Et je m'attendais à avoir des grands concepts scientifiquement définis, rigoureux, qui seraient récurrents en biologie du vieillissement. Et ce qui m'a assez vite interpellée, c'est qu'en fait, il y a des notions qui sont récurrentes, qui ont l'air d'être structurantes en biologie du vieillissement, qui circulent beaucoup, tant à l'oral qu'à l'écrit parmi les chercheurs, qui semblent toutes vouloir dire quelque chose sur le vieillissement, pouvoir expliquer, illustrer tout ou partie du phénomène, et qui pourtant sont des notions qui sont jamais très bien définies, qui sont effectivement un peu floues, qui ont souvent un caractère un peu métaphorique, qui sont parfois ambiguës, qui ont parfois plusieurs sens. Et en fait, moi, j'avais vraiment le sentiment, et c'est ce que j'ai confirmé ensuite par la suite de mon analyse, j'ai vraiment le sentiment que ce flou, cette ambiguïté, ce caractère métaphorique est précisément ce qui les rend fécondes, efficaces, opérationnelles, puisque ça permet de dire quelque chose du vieillissement, sans qu'on soit nécessairement obligé à chaque fois de définir précisément là où les notions qu'on utilise.
Alors commençons par la première notion, celle d'usure. Vous parlez d'un essai qu'a écrit Simone de Beauvoir sur la vieillesse, oui, que je n'ai pas lu, mais elle emploie, paraît-il, le mot usure.
Oui, alors j'ai cité l'essai de Simone de Beauvoir parce que c'est un essai très intéressant sur la vieillesse, tant sur les aspects sociaux et politiques, comportementaux, psychologiques, etc. Donc je vous encourage à le lire si vous en avez l'occasion.
Mais elle l'a écrit lorsqu'elle était jeune ou plus âgée?
Elle l'a écrit en 1970. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, donc je pense plutôt en fin de vie. C'est un gros pavé, mais il mérite tout à fait d'être lu. Et elle emploie justement ce terme d'usure pour parler du vieillissement, mais elle le fait, mais vous trouvez beaucoup d'auteurs qui le font, et même parmi les biologistes du vieillissement, quand vous interrogez un biologiste de façon très informelle, ce qu'est le vieillissement, vous lui demandez ce qu'est le vieillissement au premier abord, souvent ce terme d'usure apparaît, vous dites c'est simplement une usure du corps, une usure des organes, une usure. Et puis si on prend le temps de les interroger un peu plus longuement, de leur demander « mais est-ce que vous considérez du coup qu'on peut assimiler le vieillissement à un phénomène d'usure ?» À ce moment-là, en général, ils sont un peu plus prudents, ils sont un peu plus réticents à l'utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, ils l'utilisent pour dire quelque chose du vieillissement, pour illustrer un petit peu la perception qu'ils ont de ce phénomène. En revanche, ils ont plus de mal à l'utiliser de manière très rigoureuse et scientifique. Donc vous voyez, c'est une notion qui semble utile, qui semble féconde, et néanmoins qui leur pose problème lorsqu'on l'utilise dans un contexte plus scientifique.
Et par exemple, je ne sais pas si Simone de Beauvoir en parle, mais on sait aujourd'hui que le stock de cellules souches que contient l'organisme diminue au cours du temps. Oui. Il y a une sorte d'épuisement. Oui. Ça évoque bien une forme d'usure.
Oui, tout à fait. Alors, comme pour les autres notions que j'évoque dans mon livre, quelle que soit l'échelle biologique à laquelle vous vous placez, vous allez voir que la notion d'usure, elle peut avoir une forme de pertinence. Donc il y a effectivement l'épuisement des cellules souches. Vous pouvez aussi penser à l'attrition des télomères, qui est très, très étudiée.
J'avais pas pensé.
En biologie du vieillissement. Ouais, voilà, moi j'en ai parlé pendant ma thèse. L'attrition des télomères, on peut considérer que c'est une forme d'usure de l'extrémité des télomères, du coup. On peut aussi considérer que la diminution des interactions sociales, c'est aussi une forme d'usure d'une manière ou d'une autre. Enfin, à toutes les échelles d'études, c'est une notion qui reste pertinente. Et néanmoins, est-ce qu'on peut scientifiquement considérer que le vieillissement est un phénomène d'usure ? Je n'en suis pas persuadée et j'ai pas l'impression que ce soit un terme très légitime pour les scientifiques.
Alors, Clémence Guillermin, il y a une deuxième notion, donc l'accumulation d'erreurs.
Oui.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour un organisme, en l'occurrence celui d'un humain, de se tromper ?
Alors justement, c'est intéressant parce que...
Ça m'intéresse parce que je suis plus vieux que vous. Je voudrais savoir si mon corps se trompe plus que le vôtre.
C'est étonnant d'utiliser cette notion pour des processus physiologiques, pour un organisme.
C'est presque une notion morale.
Voilà, il y a une connotation morale dans cette notion. Donc c'est effectivement les scientifiques parlent, les biologistes, dans la littérature scientifique, hein, c'est même pas seulement à l'oral, ils parlent d'erreurs de réplication, d'erreurs de réparation de l'ADN, d'erreurs de réparation liées à des défauts ou à des insuffisances des mécanismes de réparation. Donc cette notion d'erreur, elle est mobilisée à nouveau, hein, à plusieurs échelles d'études, de plusieurs manières, et souvent... Elle semble supposer qu'effectivement l'organisme aurait à respecter un certain nombre de valeurs, que les processus physiologiques seraient associés à une forme de fidélité, de précision, de perfection. Donc il y a effectivement une connotation morale. Et donc moi la question que je me posais, c'est est-ce que c'est vraiment justifié ou est-ce que c'est une façon d'envisager les choses? Est-ce que l'organisme tend vers un idéal qu'il faudrait alors définir, hein? On parle parfois de template ou de genetic blueprint, il y a des termes comme ça pour essayer de définir cet idéal qui est un peu de l'ordre de la forme aristotélicienne. Pour moi, quand même, ça pose problème de parler d'erreur pour désigner des processus physiologiques. Je pense qu'on pourrait transformer un petit peu les termes utilisés ici et parler, par exemple, plus simplement d'accident, par exemple, de réplication, ou parler de glissement de réplication aussi, c'est plus neutre, plutôt que de donner cette connotation morale à des processus physiologiques.
Mais l'un des premiers à en avoir parlé, vous le citez, c'est Georges Canguilhem.
Oui.
On connaît son livre « Le normal et le pathologique », mais il est revenu là-dessus et il a introduit la notion d'erreur en biologie, un peu plus tard, je ne sais pas en quelle année, mais est-ce que c'est dans le sens que vous venez de rappeler ou est-ce qu'il voyait les choses autrement ?
Moi, je vois les choses un petit peu autrement. En fait, Canguilhem, il a écrit 3 textes sur la notion d'erreur entre 66 et 71, si je ne dis pas de bêtises. Il note au passage que cette notion, qui est souvent reliée aux théories de la formation, à la cybernétique, etc., était en fait déjà employée au début du XXe siècle, notamment pour désigner les erreurs innées du métabolisme, qui étaient en fait des maladies génétiques. Simplement, on n'avait pas les termes qu'on a aujourd'hui pour les désigner. Et en fait, le problème de Canguilhem, je dis problème mais avec des guillemets évidemment, c'est que Canguilhem envisage l'erreur uniquement au niveau de la transmission héréditaire d'informations, c'est-à-dire lorsqu'on crée un nouvel organisme, donc des parents à leur descendance, il peut y avoir apparition d'erreurs et donc apparition d'une ou plusieurs maladies génétiques. Or, il me semble que cette notion d'erreur que Canguilhem analyse très bien reste pertinente à une autre échelle, qui est l'échelle de l'organisme individuel, qui, on le sait maintenant, se régénère, c'est pas le terme exact, mais les tissus se renouvellent, les cellules se divisent, etc. Et dans ce renouvellement des tissus, dans cette division cellulaire, on peut avoir également l'apparition de ces erreurs. Et ces erreurs-ci sont au moins en partie liées au phénomène de vieillissement.
Donc à chaque fois que vous donnez un exemple, Clémence Guillermin, de ces notions, on voit que ça fonctionne, mais qu'il y a des limites.
Tout à fait.
C'est pas une explication complète.
Voilà, tout à fait.
Est-ce que ça veut dire que le vieillissement mélange ces notions d'une façon...
Oui.
Au point qu'on pourrait dire que c'est un phénomène hybride.
Oui, enfin, en tout cas, c'est sûr qu'on peut multiplier les perspectives sur cet objet d'étude qui est extrêmement complexe, qui se manifeste à de multiples échelles, au niveau génétique, moléculaire, cellulaire, tissulaire, organique, au niveau de l'organisme, au niveau des interactions que l'organisme entretient avec son environnement. Et moi, j'ai analysé ces 6 notions l'une après l'autre parce que chacune d'entre elles m'intéressait. J'espère que les lecteurs ne trouveront pas ça trop fastidieux d'avoir l'analyse de chacune de ces notions, mais si c'est le cas, je vous encourage à sauter. En tout cas, ce qui me paraît intéressant, c'est de voir que si on prend chacune de ces notions, en fait, on arrive à une perspective sur le phénomène, un éclairage du phénomène, une vision du phénomène. Et c'est en fait en multipliant les perspectives, en multipliant les angles d'approche, les approches, qu'on parvient à une compréhension finalement assez fidèle de ce qu'est ce phénomène.
Alors je vous propose qu'on continue du coup. La maladaptation, c'est la 3e notion.
Oui.
Alors elle est ambiguë, parce que adaptation à quoi ? À l'environnement, à son propre corps ? Est-ce que le corps finit par décoïncider de lui-même au point qu'il n'est plus apte à la survie ?
Alors elle est très probablement dérivée de la notion d'adaptation, qui est elle une notion très clairement centrale de la biologie. Et donc la notion d'adaptation, elle a été beaucoup étudiée par les philosophes des sciences. Et on montre bien qu'il y a au moins 2 formes d'adaptation. Il y a l'adaptation individuelle, donc de l'organisme qui s'adapte, qui suppose un effort de la part de l'organisme pour s'adapter aux circonstances extérieures. Et puis vous avez une deuxième forme d'adaptation, qui est plus passive, qui est l'adaptation au fur et à mesure, au fil des générations. Donc simplement, les organismes introduisent, c'est la vision de Darwin, hein, les organismes introduisent des petites variations qui sont ensuite sélectionnées par les circonstances extérieures. Et donc je pense que la notion de maladaptation, enfin de ce que j'ai compris, elle est simplement dérivée de cette notion d'adaptation. Et en tout cas, la maladaptation dans le cadre de la biologie du vieillissement, elle suppose plusieurs choses. Elle suppose d'abord que l'organisme est en interaction constante avec son environnement, ce qu'on sait depuis l'Antiquité. On sait que l'organisme est en interaction avec son environnement. On sait maintenant que l'organisme et son environnement sont interdépendants, et même qu'ils s'interpénètrent, puisqu'on sait que la frontière entre le soi et le non-soi est poreuse. Elle suppose également que cette interaction constante nécessite un perpétuel effort de la part de l'organisme pour s'adapter aux circonstances extérieures, au milieu de vie dans lequel il est placé. Et puis, troisième chose, cette notion de maladaptation, elle suppose que cette interaction, elle est perturbée, modifiée, mise à mal dans le vieillissement, puisque l'organisme évolue avec l'avancée en âge, puisque les circonstances extérieures peuvent changer, et puis l'interaction elle-même peut être perturbée, bouleversée au fur et à mesure avec la.
Mais est-ce qu'il y a une part du vieillissement qui ne viendrait pas du fait que le monde ayant changé depuis qu'on a été jeune, on est moins adapté à ce qu'il est devenu, alors qu'on était adapté à ce qu'il était quand on était jeune? Pour poser la question autrement, si on prend une vieille personne aujourd'hui, et qu'on les remet dans les conditions de sa jeunesse, est-ce qu'elle apparaîtra moins vieille qu'elle ne semble dans notre monde aujourd'hui?
Oui, c'est une question intéressante.
Une sphère de pensée.
Oui, tout à fait. Alors moi, dans un article que j'ai publié en 2022, j'essayais de faire un parallèle entre cette notion de maladaptation et l'expression de Georges Canguilhem qui parle de perte de normativité. Alors Canguilhem n'aborde jamais explicitement la question du vieillissement, mais il fournit quand même un cadre conceptuel pour penser le vieillissement de manière assez pertinente. Et lorsqu'on fait ce parallèle entre maladaptation et perte ou diminution de la capacité normative, on en arrive à la notion de norme telle qu'elle est développée par Canguilhem. Et Canguilhem, en fait, définit toujours la norme selon trois dimensions, individuelle, biologique et sociale. Et lorsqu'on part de cette notion de norme telle qu'elle est définie par Canguilhem, on peut appréhender le vieillissement et le rapport que l'organisme entretient avec son environnement selon ces trois dimensions, donc individuelle, biologique ou sociale. Et donc du coup, il y a évidemment plein de questions associées. Est-ce que le vieillissement, c'est simplement une forme de peut-être de déclin ou une transformation en tout cas sur le plan biologique? Est-ce que ça relève davantage de l'individu? Est-ce qu'il faut responsabiliser davantage les individus face à leur vieillissement? Ou est-ce que c'est une question sociale? Et donc est-ce que c'est à la société de s'adapter au vieillissement des individus, de faire en sorte qu'elle soit peut-être plus inclusive, parce que c'est un terme très utilisé en ce moment? Voilà, on retrouve ces trois dimensions qui, à mon avis, sont tout à fait intéressantes pour appréhender le vieillissement.
On va en reparler, mais on continue notre petite liste.
Oui.
La quatrième notion, c'est le vieillissement intrinsèque.
Oui.
L'idée qu'en fait, on est programmé pour vieillir. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'il est illusoire de vouloir lutter.
Oui, tout à fait. Cette expression de vieillissement intrinsèque, oui, alors elle a plusieurs sens, plusieurs significations. Selon les biologistes, souvent c'est les biologistes du vieillissement de la peau qui l'utilisent, ce qui est intéressant puisque intrinsèque, ça vient du latin intrinsecus qui signifie intérieurement. Donc et puis la peau, c'est l'organe par excellence entre l'intérieur et l'extérieur. Donc étymologiquement, c'est une expression qui est intéressante. Mais cette notion de vieillissement intrinsèque, en fait, elle désigne plusieurs choses. Elle peut désigner la composante génétique du vieillissement. Donc le vieillissement intrinsèque, c'est tout ce qui relève, tout ce qui est inscrit dans le génome des individus, tout ce qui est prévu par l'organisme, par opposition au vieillissement extrinsèque qui est lié à l'intervention d'événements extérieurs. Elle peut aussi désigner l'évolution saine de l'organisme au sens de normal, en l'absence de toute pathologie. Dans ces cas-là, elle permet de faire une distinction entre évolution saine de l'organisme ou évolution pathologique. Et parfois, c'est aussi une espèce de catégorie pratique. Au début, j'avais dit une catégorie fourre-tout, mais ça plaisait pas tellement à ma directrice de thèse. Donc, disons catégorie pratique pour désigner tout ce qu'on ne peut expliquer que par le temps qui passe. Donc, tout ce qui ne relève pas d'une pathologie, ne relève pas d'une certaine prédisposition génétique, ne peut être expliqué par la présence d'un élément extérieur. Donc, le vieillissement intrinsèque, ce serait tout ce qu'on n'arrive finalement pas à expliquer d'une autre manière.
Mais il n'a pas de cause explicite, ça veut dire?
Oui, tout ce qui n'a pas de cause autre que l'organisme a vieilli, enfin a passé du temps dans ce monde et donc a vieilli. Et effectivement, cette expression, elle a à nouveau une connotation un petit peu morale. Elle sous-entend que effectivement, il y aurait un processus de vieillissement normal au sens de universel, partagé par tous les individus. Et puis, ça sous-entend aussi que, en quelque sorte, il faudra avoir une certaine forme de sagesse face au vieillissement, voire une forme de résignation.
D'acceptation.
D'acceptation, voilà. Ce serait une caractéristique essentielle des êtres vivants, finalement. Ce serait intrinsèque au sens de, oui, caractéristique essentielle. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retirer aux êtres vivants. Et donc, il faudrait simplement accepter que les êtres vivants, parce qu'ils vivent, vieillissent.
Clémence Guillermin, cinquième notion, la fragilité.
Oui.
Est-ce que c'est une notion scientifique, ça ?
Elle est un petit peu différente parce que c'est une notion qui est empruntée à la gériatrie, donc qui a été développée d'abord par et pour les gériatres à partir des années 80, qui est devenue une notion phare de la gériatrie au début des années 2000. Et puis ensuite, elle a été récupérée par les biologistes du vieillissement qui... Alors, c'est pas vraiment une notion scientifique, mais ils ont tenté d'en faire une notion scientifique, c'est-à-dire qu'il y a eu un processus que j'ai appelé un processus de scientificisation de cette notion, qui est passé par donc des tentatives multiples de définition, mais il faut quand même souligner qu'à ce jour, il n'existe pas de définition unique, univoque, consensuelle de la fragilité, selon les biologistes, selon les animaux modèles, selon les stratégies expérimentales adoptées, les définitions varient. Mais toutefois, cette scientificisation de la fragilité est passée aussi par l'élaboration d'instruments de mesure pour mesurer le degré de fragilité des individus en fin de vie. Donc il y a principalement deux moyens de mesurer la fragilité d'un individu en fin de vie. Il y a le phénotype de fragilité de Linda Fried et ses collègues, qui repose sur cinq critères. Donc on examine cinq critères chez les individus en fin de vie. Et s'ils présentent au moins trois de ces cinq critères, on considère que ce sont des individus fragiles. Et après, on a l'indice de fragilité de Rockwood et Magnitsky, donc également élaboré au début des années 2000, où là, on mesure la fragilité principalement en examinant un certain nombre de déficits. Donc il y a toujours un certain nombre de critères. Alors selon les auteurs, ça varie, mais c'est toujours au moins une quarantaine de critères. Et donc selon les scores obtenus pour chacun de ces critères, on évalue le degré de fragilité des individus donnés. Il faut quand même souligner qu'aujourd'hui, il y a de très nombreux instruments de mesure de la fragilité, de très nombreux indices de fragilité et que les chercheurs peinent à se mettre d'accord sur une unique définition et une unique façon de mesurer la fragilité, ce qui montre bien que c'est une notion floue.
Fragile, elle-même fragile.
Une notion elle-même fragile, tout à fait.
La sixième notion que vous utilisez pour dire le vieillissement, c'est ce qu'on appelle le trade-off. Alors, vous le définissez comme l'existence de corrélations négatives entre différents traits de l'histoire de vie de l'organisme. Oui. Pas très clair, si je puis me permettre.
Alors, pour le dire plus clairement peut-être, vous pouvez rattacher cette notion à la théorie dont je parlais précédemment, la théorie du soma disposable ou du soma jetable de Thomas Kirkwood. Donc, pour rappel, c'est lui qui considérait que tous les êtres vivants naissent avec une quantité d'énergie limitée, qu'ils pouvaient choisir ensuite d'allouer plutôt à leur reproduction, au maintien de leur organisme ou à leur longévité, voilà. Et donc cette notion de trade-off, alors encore une fois, selon l'échelle d'étude à laquelle on l'utilise, elle exprime des choses différentes, mais ce que j'entends par corrélation négative, c'est simplement les choix que les individus vont faire au cours de leur vie. Donc c'est des corrélations négatives, donc des relations qu'on peut faire entre différents traits d'histoire de vie. Par exemple, on va voir que un individu qui aura plus de descendants en début de vie vivra peut-être moins longtemps. Parfois, c'est des traits qui s'expriment simultanément. Donc, c'est par exemple le rapport entre le nombre d'une couvée, nombre d'œufs dans une couvée et la taille des œufs. Voilà, vous pouvez faire tout un tas de corrélations comme ça entre différents traits d'histoire de vie.
Est-ce qu'il n'y a pas dans le phénomène de vieillissement quelque chose qui est complètement silencieux, qui se manifeste au bout d'un certain temps ? Alors, on va venir évidemment à François Julien, mais vous connaissez cette phrase qu'on attribue sans doute à tort à Groucho Marx, qui disait dans tout vieux, il y a un jeune qui se demande, purée, qu'est-ce qui s'est passé? Et pour le dire autrement, dans des termes plus élégants, je vous cite cet extrait de La Chute d'Albert Camus. Il écrit ceci. La tragédie de la vieillesse n'est pas celle d'être vieux, mais celle d'être jeune. Dans ce corps vieillissant, il y a un cœur curieux, affamé, plein de désirs comme dans la jeunesse.
Et c'est très beau. Oui, alors vous évoquez François Julien, et évidemment, moi, c'est un auteur qui m'a beaucoup parlé, qui n'est pas spécialiste du vieillissement, qui est sinologue, qui a fait des travaux extraordinaires sur d'autres sujets, mais
qui est venu à l'émission plusieurs fois.
Oui, tout à fait. Qui en tout cas a publié ce livre qui m'a beaucoup touchée et que bon, je vous encourage à lire. En plus, il est relativement court et très très bien écrit, qui s'appelle « Les transformations silencieuses », dans lequel il décrit ce type de transformation très particulier, qui sont donc les transformations silencieuses. Alors je vais essayer de le citer, mais je vais plutôt paraphraser parce que je ne connais pas la citation par cœur. Il parle de ces transformations qui s'opèrent comme en silence, presque indépendamment de nous, sans qu'on y prenne garde, etc. Et en fait, il cite un certain nombre d'exemples de transformations silencieuses.
Dont le changement climatique.
Dont le réchauffement climatique, ça je pense que tout le monde peut se le représenter. Il parle aussi de la fonte des neiges, il explique très bien comment la fonte des neiges, c'est finalement une transformation silencieuse, parce qu'on peut pas dire à un moment qu'on n'a plus de neige, qu'on passe à l'eau, ou qu'on a enfin de l'eau et qu'on n'a plus de neige. Par contre, on peut dire à la fin que la neige a fondu. Il cite un autre exemple qui est l'érosion des sentiments dans un couple, que j'ai trouvé aussi intéressant, qui n'est pas du tout sur le même plan, mais qui peut-être parlera à certains d'entre nous. Et puis, bien sûr, il cite l'exemple du vieillissement. Et donc, je cite la citation que vous m'avez redonnée. Vieillir, on le sait, ne se laisse pas décomposer en traits ou qualités séparables mais accolés les uns aux autres, dont la totalité ferait le vieillissement. Je peux passer en revue autant d'aspects divers que je veux, les yeux, le teint, la peau, la vue, si longue que soit l'énumération, elle ne pourra encore rien saisir, ou si superficiellement de la transition qui s'opère. Donc c'est vraiment l'idée que le vieillissement, et oui, relève bien de la transformation silencieuse, c'est-à-dire que il s'opère en silence, sans qu'on y prenne garde, presque indépendamment de nous, et j'ai hâte d'avoir, 60, 70 ans, 80 ans, pour comprendre, pouvoir conscientiser le moment où je me serais dit « Ah, ça y est, je suis passée de l'autre côté. » Je sais pas si y a un moment où on se dit « Ça y est, j'ai basculé. » Voilà.
Clémence Guillermin, une question aussi que je voulais vous poser qui m'intéresse et qui, je pense, intéresse tout le monde. Quand vous regardez une photo de vous-même enfant, vous dites « C'est moi ».
Oui.
Vous dites pas « C'était moi ». Ça veut dire que vous invoquez un lien qui vous relie à qui vous étiez.
Oui.
Ça veut dire que le vieillissement qui vous a affecté n'a pas été un remplacement de vous-même à l'époque par quelqu'un d'autre.
Oui.
C'est toujours vous.
Oui.
Et d'ailleurs, ça permet de faire remarquer que dans la langue française et dans d'autres aussi, le sujet du verbe changer, c'est ce qui change pas quand on dit qu'il a changé. Si je dis monsieur machin a changé, à la fin, j'ai toujours affaire à monsieur machin, il n'a pas été remplacé par monsieur bidule. Ce qui a changé, c'est peut-être sa coupe de cheveux, son tour de taille,
oui,
ou je ne sais quoi. Et donc, quel est le noyau de notre essence qui fait qu'on reste en partie soi, alors que le corps évolue. Je vous pose la question parce que je suis tombé en préparant cette émission sur un livre de Arthur Schopenhauer que vous connaissez sûrement, qui s'appelle L'art de vieillir. Voilà ce qu'écrit Arthur Schopenhauer. Nous avons beau vieillir, nous caressons pourtant en notre fort intérieur la conviction d'être exactement le même que celui que nous étions dans notre jeunesse, voire dans notre enfance. Cette chose inchangée, qui reste toujours la même et ne s'altère pas avec les ans, c'est justement ce que j'appelle le noyau de notre essence.
Oui.
Qu'est-ce qui change pas en nous quand on vieillit ?
Alors, moi, je me suis plutôt intéressée à la dimension organique et physiologique du phénomène. Et là, je pense que votre question, elle touche plutôt à l'aspect subjectif, existentiel,
mémoire,
du vieillissement. Ça relève plus, oui, c'est plus de l'ordre de la mémoire, effectivement. Bon, c'est intéressant parce que moi, j'ai beaucoup travaillé avec Henri Bergson, donc philosophe de la durée, qui a travaillé de façon directe ou indirecte sur le vieillissement, et qui parle souvent du vieillissement en termes de mémoire, justement. Qui décrit le vieillissement comme l'enroulement d'un fil sur une pelote ou à l'inverse le déroulement de quelque chose, le déroulement d'un ruban. Donc je pense qu'il y a quelque chose à creuser peut-être à ce niveau-là, mais en tout cas il y a des parallèles à faire, je pense, entre l'approche organique, physiologique du vieillissement et l'approche plutôt subjective ou existentielle que j'ai moins étudiée, qui a été beaucoup étudiée par certains philosophes, dont Schopenhauer, mais que j'ai moins étudiée.
Mais vous dites, Clémence Guillermin, dans votre livre, qu'il y a quand même pas vraiment de consensus parmi les chercheurs qui travaillent dans la biologie du vieillissement. Sur quoi portent leurs désaccords principaux ?
Alors c'est fascinant, c'est un article qui a été publié en 2020 par Alan Cohen et 36 co-auteurs. dans lequel donc, les auteurs font ce constat qu'il n'y a pas de consensus en biologie du vieillissement, y compris sur les aspects les plus fondamentaux. Donc je réponds à votre question comme ça, y compris sur les aspects les plus fondamentaux du phénomène. En fait, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'ils le quantifient, ils quantifient ce niveau de désaccord. Donc pour le faire, ils ont envoyé un questionnaire à l'ensemble des participants à une conférence de biologie du vieillissement, dans lequel il y avait plusieurs choses, mais notamment il y avait 16 énoncés très généraux sur le vieillissement. Par exemple, le vieillissement est un phénomène programmé par l'organisme, le vieillissement est un phénomène guérissable, le vieillissement affecte tous les organes de la même manière, etc., etc. Et ils ont demandé à tous les participants de se positionner face à ces différents énoncés sur une échelle de Likert à 7 niveaux, c'est-à-dire de dire est-ce que vous êtes complètement d'accord, plutôt d'accord, neutre, plutôt pas d'accord ou complètement pas d'accord avec tel ou tel énoncé. Et ce qu'ils observent, c'est que pour 11 de ces 16 énoncés, ils obtiennent toutes les réponses depuis complètement pas d'accord à complètement d'accord. Et pour les 5 restants, du coup, on va de complètement pas d'accord à d'accord ou de pas d'accord à complètement... Enfin voilà, on arrive quasiment à la totalité du spectre des réponses. Donc en fait, pour tous les énoncés, y compris les plus basiques sur le vieillissement, vous avez un... C'est, je dirais plutôt une absence de consensus qu'un désaccord, mais une absence de consensus qui est quasi totale.
Est-ce que ça veut dire qu'on doit en conclure que le processus de vieillissement n'est pas compris encore ?
Je pense pas forcément qu'il soit pas complètement compris. Moi, j'ai réagi à cet article justement en expliquant qu'à mon sens, en tout cas, ça prouvait trois choses. Au moins trois choses. Ça prouvait d'une part que la philosophie pouvait contribuer à la science, ou que la science pouvait avoir, je mets des guillemets, besoin de la philosophie. Et pour ce faire, donc, je m'appuyais sur un article de Lucie Laplane, Thomas Pradeu et leurs collègues publié en 2019, que je vous encourage à lire, qui est assez court, qui s'intitule « Why Science Needs Philosophy ». Donc ils expliquent bien comment la science peut contribuer à la philosophie. Et je pense que cette absence de consensus en biologie du vieillissement, elle mérite d'être prise en considération par la philosophie. Et la philosophie peut apporter quelque chose à ce sujet, notamment par des entreprises de clarification conceptuelle, mais pas uniquement. Deuxième chose, cette absence de consensus, elle prouve que le vieillissement est, je pense qu'on l'a déjà montré, c'est un phénomène complexe, c'est un phénomène multi-échelle, qu'on ne peut appréhender que par des perspectives multiples, en multipliant les approches et les disciplines qui s'y intéressent. Et puis, face à cette absence de consensus, la troisième réaction qu'on peut avoir face à cette absence de consensus, c'est de se dire que finalement, c'est pas forcément un problème, et que ça peut être au contraire fécond dans une discipline scientifique qui s'intéresse à un objet d'étude aussi complexe, de continuer à multiplier les approches, multiplier les perspectives. Donc on peut parler d'une forme de pluralisme, et il y a des auteurs qui ont beaucoup écrit là-dessus, notamment Stéphanie Ruffy sur le pluralisme feuilleté. Voilà, ça peut être une façon de l'appréhender. Moi, j'ai plutôt préféré parler d'une forme d'ambiguïté en biologie du vieillissement, que traduisent notamment les six notions dont on a parlé. Je pense que cette ambiguïté, elle est particulièrement féconde en biologie du vieillissement, où justement on s'intéresse à cet objet d'étude complexe et qu'on peine à définir.
Mais est-ce que l'augmentation de l'espérance de vie qu'on constate dans un certain nombre de pays depuis pas mal de décennies doit quelque chose au résultat, même si c'est une discipline qui a les ambiguïtés que vous décrivez, au résultat de la biologie du vieillissement ? Ou est-ce que c'est simplement l'hygiène, le confort qui sont responsables de cette augmentation ?
Je pense qu'on doit beaucoup de choses à la médecine pour l'augmentation de l'espérance de vie. La médecine a fait beaucoup. Il y a eu en France, notamment tout au long du XXe siècle, le développement d'une médecine des personnes âgées. On a mis au point tout un tas de techniques, évidemment les antibiotiques après la Deuxième Guerre mondiale, et puis tout un tas de techniques, d'approches différentes pour s'occuper des personnes âgées, traiter les personnes âgées, traiter les pathologies liées à l'âge également. Donc là, pour moi, ça relève plutôt de la médecine. Je pense qu'on peut remercier la médecine pour les progrès réalisés au cours des dernières décennies.
La médecine et le soin, en général.
La médecine et le soin, voilà. La médecine et la santé publique, je dirais. Médecine plutôt à l'échelle individuelle et santé publique plutôt à l'échelle des populations. Et puis ensuite, alors je ne sais pas exactement, je pense au tournant des 20e et 21e siècles, il y a eu une volonté de démédicaliser le vieillissement. Donc c'est très clair dans les rapports gouvernementaux récents, dans les divers rapports, divers articles que j'ai pu consulter. Il y a eu vraiment cette volonté de démédicaliser un certain nombre de... Avec Foucault aussi, hein, même avant le début des années 2000, une volonté de retirer le vieillissement, de ne plus en faire l'apanage de la médecine. C'est-à-dire de rappeler que c'était aussi un phénomène social, un phénomène psychologique, etc. Et donc d'autres disciplines se sont intéressées au vieillissement, on a mobilisé d'autres approches. Et moi, ce que j'essaye de dire dans mon livre, c'est qu'on... C'était très bien de démédicaliser le vieillissement, c'était très bien d'appréhender le vieillissement par d'autres prismes, mais on gagnerait tout de même à non pas remédicaliser, mais à rebiologiser le vieillissement, c'est-à-dire à reconsidérer l'approche biologique, l'approche physiologique de ce phénomène.
Mais dès lors qu'elle est ambiguë, comment est-ce qu'on fait pour tenir compte de ce qu'elle nous dit si ce qu'elle nous dit n'est pas clair ?
Alors, c'est pas parce que c'est pas clair que c'est pas fécond, que c'est pas intéressant. Moi, ce que j'ai essayé de faire dans ma thèse, mais je pense que c'est encore un chantier, encore un travail à accomplir, c'est que j'avais pris un certain nombre de quotidiens nationaux sur une période donnée, je crois que c'était 3 ans, et j'avais essayé de regarder les grandes questions, les grands débats, les grands questionnements qui animaient la société actuelle au sujet du vieillissement. Et pour chacune de ces questions, pour chacun de ces débats, j'essayais d'identifier, alors pas des réponses en biologie du vieillissement, mais quelques éléments de connaissance qui permettaient de nourrir le débat, d'alimenter les discussions, etc. Par exemple, on parle beaucoup des différences interindividuelles face au vieillissement. Et donc là, la biologie montre clairement qu'il existe des différences entre les individus selon leur sexe, selon leur catégorie sociale, selon leur milieu de vie, selon leur choix de vie, leur style de vie, etc. Sur tout un tas de sujets, tout un tas de débats.
Est-ce qu'on comprend par exemple pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes ?
Je vais pas répondre de façon catégorique à cette question parce que je pense qu'il y a des personnes beaucoup plus compétentes que moi pour le faire, mais on a différentes pistes de recherche. Encore hier, dans la newsletter, de Nature, j'ai vu qu'on avait découvert que le second chromosome X des femmes pourrait permettre de prévenir le déclin cognitif, donc pas prévenir le vieillissement, mais le vieillissement cognitif en tout cas, donc chez les femmes, ce qui expliquerait peut-être des différences dans le déclin cognitif des individus entre les hommes et les femmes. Je pense qu'il y a plusieurs pistes de recherche qui sont explorés, et c'est encore des chantiers à creuser et des recherches à réaliser.
Alors Clémence Guillermet, il y a une technique, si j'ose dire, qui marche, c'est pour augmenter son espérance de vie, c'est la restriction calorique. Est-ce que ça se comprend, ça se constate, mais est-ce qu'on comprend le mécanisme biologique qui fait que c'est efficace ?
Alors ça se constate en tout cas chez les animaux modèles, puisque chez l'homme c'est quand même très difficile de mettre en place des stratégies expérimentales sur la durée de vie entière des êtres vivants pour montrer que quelqu'un qui mange moins, voilà ce qu'on appelle la restriction calorique, juste pour définir, donc c'est la réduction de l'apport alimentaire sans modification de l'alimentation. Donc c'est compliqué à mettre en place chez des individus. En revanche, ça marche très bien chez un certain nombre d'animaux modèles. Ça permet d'augmenter la durée de vie de façon très significative chez le nématode, par exemple, chez la drosophile, chez la souris aussi. Et alors, pour l'expliquer, on sait que y a un certain nombre de voies de signalisation qui sont impliquées dans le vieillissement, notamment la voie de signalisation insuline IGF-1, qui est impliquée dans le métabolisme. Donc on sait que les voies du métabolisme ont quelque chose à voir avec le vieillissement. Après, l'explication est beaucoup plus complexe que simplement ça. Et voilà, selon les chercheurs, on peut explorer différentes pistes.
Autre question qui m'intéresse, est-ce que l'activité physique, c'est bon ?
Oui, alors moi, ce que j'avais conclu de tous les échanges que j'ai pu avoir avec les biologistes du vieillissement, j'en ai eu quand même quelques-uns, c'est que chez l'humain, la seule chose qui marche avec certitude pour augmenter sa durée de vie, c'est de revenir à un mode de vie comme les hommes des cavernes, comme il y a de nombreux siècles, c'est-à-dire de d'avoir une activité physique régulière et de manger sainement et pas trop.
Donc, il faut cumuler activité physique et restriction calorique.
Oui, je pense.
Bon, mais si on mange peu, c'est difficile de faire du sport.
Tout à fait. Et là, on retombe sur la notion de trade-off, ou de compromis. C'est-à-dire que si vous regardez toutes les stratégies que vous pouvez envisager pour augmenter la durée de vie d'une manière ou d'une autre des individus, vous arrivez toujours à la conclusion qu'il y a toujours une balance bénéfice-risque. Il y a toujours des aspects positifs et des aspects négatifs. Par exemple, si vous cherchez... Oui, par exemple, sur la restriction calorique, elle peut pas être trop importante au risque de vous empêcher de vivre correctement. Au niveau cellulaire, sur le fonctionnement cellulaire, on sait que le fonctionnement cellulaire normal produit des espèces réactives de l'oxygène qui causent ensuite des dommages aux composants macromoléculaires des cellules, que ces dommages créent ce qu'on appelle du stress oxydant qui est très clairement impliqué dans le vieillissement. Mais si vous cherchez à supprimer ce stress oxydant, en quelque sorte, vous cherchez à vous opposer au fonctionnement cellulaire normal. Donc on ne peut pas supprimer le stress oxydant non plus. Donc il faut arriver à une forme d'équilibre entre un fonctionnement cellulaire normal et une production d'espèces réactives de l'oxygène pas trop importante.
Est-ce que vos travaux de philosophe des sciences sur le vieillissement a une incidence sur votre propre vie ? Est-ce que vous préparez votre vieillesse dès maintenant ? Dans vos comportements, votre façon de vous nourrir, etc.
Je ne crois pas, ça m'oblige à m'organiser pour pouvoir travailler correctement. Mais non, dans mes choix de vie, pas particulièrement. Je continue à faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire à manger à peu près sainement et à faire un peu d'activité physique. Non, ce que j'ai surtout compris, c'est que ça ne servait à rien d'investir dans des produits pharmaceutiques, nutraceutiques ou dans des produits extraordinaires vendus par la médecine anti-âge, puisqu'on sait aujourd'hui que, a priori, aucun de ces produits n'a une efficacité prouvée chez l'homme.
Est-ce que le regard que la société porte sur la vieillesse a une incidence sur la biologie du vieillissement ? Autrement dit, est-ce que les chercheurs orientent leurs travaux en fonction de ce qu'ils perçoivent du regard que nous portons sur la vieillesse ?
Alors, moi, j'en suis convaincue, je suis persuadée qu'il y a des interactions entre le discours biologique sur le vieillissement et la façon dont la société appréhende le vieillissement. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment encourager une forme de dialogue, quel qu'il soit, entre philosophie et biologie, entre société et science du vieillissement. Oui, je suis persuadée qu'il y a des interactions, mais dans les deux sens, et qu'on gagnerait à échanger davantage entre biologistes et société.
Est-ce que l'espérance de vie en bonne santé est un paramètre qui intervient dans vos travaux ? Parce qu'on voit bien que la longévité n'augmente pas. La longévité, c'est la durée maximale qu'on peut vivre. Il y avait des centenaires au Moyen-Âge. Oui. On peut pas dire que ça évolue. Par contre, le nombre de gens qui meurent vieux augmente. Oui. Mais est-ce qu'ils meurent vieux en bonne santé, ou est-ce que l'âge à partir duquel on commence à avoir des problèmes de santé est à peu près le même ?
Alors souvent, les biologistes s'en sortent en disant que ce qu'ils cherchent, ou en tout cas les partisans de la médecine anti-âge, s'en sortent en disant que ce qu'ils visent, c'est pas tant une augmentation de la longévité que ce qu'ils appellent une compression de la morbidité, c'est-à-dire une diminution au maximum de la période de la vie où on vit en mauvaise santé. Donc finalement, une augmentation de la longévité en bonne santé. Donc ils jouent un petit peu sur cette ambiguïté, effectivement. Donc c'est une notion qui revient régulièrement en biologie du vieillissement. Oui.
Mais alors finalement, pour conclure, qu'est-ce qui est programmé ? Et qu'est-ce qu'il n'est pas ? Quelles sont les choses sur lesquelles on peut jouer ?
En fait, moi, j'ai le sentiment que les biologistes du vieillissement sont toujours tiraillés entre ces deux extrêmes. D'une part, le constat qu'il semblerait qu'il y ait des choses qui soient programmées par l'organisme, donc inscrites dans le génome des individus. Et d'autre part, le constat que finalement le vieillissement est très fortement lié à la survenue d'événements stochastiques, à des agressions environnementales qui sont aléatoires. Et donc finalement, toutes les théories du vieillissement se trouvent quelque part sur le spectre entre vieillissement programmé par l'organisme et accumulation de dommages, d'erreurs, de manière complètement aléatoire.
Mais ça, c'est une conclusion qui nous laisse complètement tirailler, Clémence Guillermin. Parce qu'à la fois, il y a un discours, il faut accepter, et un autre, il faut lutter contre.
Alors les stoïciens vous diraient qu'il faut apprendre, alors je vais forcément mal le dire, mais il faut apprendre à connaître ce qu'on peut changer. Je sais plus, vous savez peut-être la citation exacte.
Il faut pas essayer de changer ce qu'on peut pas changer.
Il faut connaître ce qu'on peut changer, connaître ce qu'on peut pas changer, et savoir faire la différence, je crois.
Enfin,
je
le dis pas bien. C'est exactement ma question. Et donc qu'est-ce que je peux faire parmi les choses que je peux changer ?
On peut jouer sur tout ce qui relève du vieillissement extrinsèque, donc tout ce qui est exposition à des événements, à des éléments néfastes. On peut diminuer le stress, l'exposition au stress. On peut se nourrir convenablement, on peut faire du sport. Voilà. Après, la prédisposition génétique, les maladies, etc. Malheureusement, on n'y peut pas grand-chose.
Merci à vous pour cette conclusion qui donne quand même un peu d'espoir. Clémence Guillermin, je recommande la lecture de votre livre « Le vieillissement n'est pas une maladie ». Ça vient de paraître aux éditions PUF, en coédition avec Les sciences dans la cité. Philosophie des sciences dans la cité, je crois. Merci à vous, c'était La Conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Élise Leu et à la réalisation Luc Jean Reynaud.